Et en même temps, il ne peut pas s'empêcher de se dire, mais plus on arrive vers Jérusalem, plus le moment où Jésus va se manifester en sa gloire de Messie va arriver, puisqu'ils sont aussi dans cette idée que forcément Jésus va être un Messie glorieux qui va chasser les Romains et s'établir roi sur Jérusalem. Et donc, qui dit le roi, il dit gloire royale, dit la cour, donc place à droite, place à gauche. Donc ils sont aussi dans cette... dans ce tiraillement où à la fois ils ont peur et en même temps je pense qu'ils s'imaginent qu'il va y avoir un événement inattendu qui va ouvrir le chemin et qui va leur permettre de s'acheminer à Jérusalem sans mal, et les ennemis du Christ seront abattus, et qui se réalisent d'une certaine manière au jour des rameaux. Mais...
Avec le jeu de bruche. Abandonne tout et suis-moi. Donc, il abandonne tout, donc je ne suis pas, c'est terminé. Et par exemple, les apôtres disent oui, mais nous, on a tout abandonné. En fait, c'est en raisonnant aussi, mais est-ce que vous êtes capable de voir le calice, comment est-ce que vous êtes capable de me suivre? C'est-à-dire qu'il renvoie aussi à ça. C'est-à-dire qu'en fait, il renvoie aussi à ce que. Non, il ne suffit pas. C'est une condition nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Quoi. Enfin, c'est vous avez tout abandonné, c'est bien, mais ça ne suffit pas.
Ou qu'en tout cas, il y a toujours des offrandes à faire supplémentaires. C'est-à-dire, c'est comme dans la vie religieuse, justement. On peut être rentré dans la vie religieuse, avoir prononcé ses vœux perpétuels et avoir clairement tout abandonné. Mais n'empêche que le lendemain des vœux perpétuels, il faut renouveler cette offrande et puis se donner au Christ parce que même dans la vie religieuse, dans la vie sacerdotale, on peut, de façon plus ou moins sournoise, reprendre ce qu'on a donné, parce qu'au jour de l'ordination, on va dire, ben oui, voilà, je me donne au Christ et je veux que le Christ soit vraiment le chef de ma vie. Et puis après, quand j'arrive dans la paroisse, si je gère tout à ma façon, selon ma volonté, etc., ben, je reviens d'une certaine manière sur le don que j'avais fait précédemment. Donc c'est vrai qu'il y a, effectivement, dans la vie des apôtres, ce don qu'ils ont fait, que personne ne conteste, au bord du lac de Tibériade, où ils laissent leur filet, leur famille, etc., où ils suivent le Christ. Mais, on le voit bien avec Jacques et Jean, il y a aussi des manières sournoises de reprendre un peu ce qu'on a donné, c'est-à-dire, bah oui, voilà, j'ai tout donné pour le Christ, mais enfin, si en échange, je pouvais quand même avoir une place à droite, à gauche, donc effectivement, c'est jamais terminé.
Dans les faits, effectivement, comme la plupart terminent en martyr.
Ah oui, ils le diront vraiment.
Ils y entendent, mais bon, c'est le moment où Jésus les interroge là-dessus, c'est pas forcément évident pour eux.
De fait, là, ils disent vous boirez la coupe, vous serez baptisé du baptême auquel vous êtes plongé, donc effectivement, ils mourront martyrs. Mais bon, on peut penser aussi à Saint-Pierre au bord du lac de Tibériade, quand Jésus demande s'il l'aime. Même à ce moment-là, Saint-Pierre n'est pas arrivé encore à la pleine maturité. Saint Grégoire de Nice disait que la vie chrétienne, nous allons de commencement en commencement vers des commencements qui n'auront jamais de fin. C'est-à-dire, on est toujours dans un élan. On ne peut jamais s'arrêter, on ne peut jamais se dire, là, maintenant, je suis arrivé. Puisqu'on est toujours, chaque jour, appelé à renouveler notre don, comme si c'était la première fois. Et c'est un peu ça, mais aucun des autres choix.
Et quand tu parles de siéger à droite et à gauche et dans la gloire, c'est pas par rapport à la transfiguration. Il ne manque pas ça. Comme s'il y avait un peu pris goût, parce qu'il a déjà eu la transfiguration. C'est-à-dire de dire, on ne peut pas recommencer.
Petite fiche de transfiguration. Non, malheureusement, je crois que c'est plus terre à terre. Ouais.
C'est
juste les
mêmes
apôtres.
C'est un étonnant de demander de siéger en face à la gloire. Ça, je vois pas à part la royauté.
C'est plus un siège de royauté. Ouais. C'est plus de.
C'est dans la gloire.
Tu as raison. C'est plus de participer à la gloire royale du Messie. Ouais. Exactement. Ce qui sera quand même la dernière question qu'ils poseront, qui montre qu'il faut quand même être bien accroché dans la persévérance que juste avant de remonter au ciel,
oui.
Les apôtres quand même là, mais quand vas-tu donc restaurer la royauté en Israël? Ah, vous avez tout compris là. C'est terrible, hein. Bon, là on peut se dire que peut-être ils ont envisagé une royauté un peu plus eschatologique à ce moment-là, c'est-à-dire est-ce maintenant que va venir le jour du Seigneur? C'est-à-dire que là ils en sont peut-être plus quand même à est-ce qu'on va pouvoir avoir un trône d'or et d'argent sur le mont Sion? Ils en sont peut-être plus dans est-ce maintenant le jour, comme ils l'appelaient, avec un grand J, parce que dans l'esprit des Juifs, les deux moments, normalement, étaient proches pour eux. C'est-à-dire, quand le Messie viendrait, il ferait rentrer le peuple d'Israël dans les derniers temps. Donc, et pour eux, voilà, c'était relativement proche. Donc, comme ils voient que le Christ, quand même, voilà, est glorieux, est ressuscité, que sa vie sur la terre ne va pas se prolonger, ils disent, voilà, c'est maintenant que le jour du Seigneur va apparaître. Et donc, c'est là où le Christ fait comprendre que effectivement, si les derniers temps sont bien arrivés, mais que ces derniers temps peuvent durer très longtemps, puisque maintenant vient le temps de l'Église, donc ce temps où ils vont diffuser la bonne nouvelle du salut dans le monde entier. Donc, le jour du Seigneur ne va pas arriver immédiatement après l'ascension.
Dans les lettres de Saint Paul.
Hein. Oui, que les chrétiens.
Ça va arriver tout de suite, quoi.
Et même dans l'évangile, quand le Christ parle de la chute de Jérusalem, on voit bien que dans l'esprit de l'évangéliste qui écrit, les choses ne sont pas clairement démêlées. Et que pour lui, la chute de Jérusalem, c'est forcément un des grands signes annonciateurs de la fin des temps. Et donc, il n'a pas ce recul de voir que la chute de Jérusalem, pardon, c'est la fin d'un temps, c'est la fin de l'ancienne alliance, mais c'est pas la fin des temps, au sens que la fin du monde. Mais on peut comprendre que pour un juif comme saint Matthieu, par exemple, qui écrit que la chute de Jérusalem soit un événement tellement important que il la met en rapport avec la fin des temps, hein, avec la venue du Messie. Donc, pas la venue du Messie, c'est déjà la venue de la BKR, c'est déjà une chose. Ouais. Oui, ils sont capables de dire beaucoup de choses, les apôtres. Oui. Oui, non, mais c'est sûr qu'il y a effectivement. Il y a effectivement un amour du Christ qui est réel, qui leur a fait quitter leur travail, leur filet, et leurs parents. Donc cet élan, ils l'ont eu, et ils l'ont encore, ça c'est sûr. Et quand la parole que je donnais à l'instant, quand saint Thomas dit « Allons et mourrons avec lui » quand il quitte la Galilée pour la Judée, c'est très fort. Et donc, il y a effectivement cet amour du Christ que Saint-Pierre, le soir du jeudi saint, si tous te trahissent, pas moi, enfin, voilà, il y a effectivement un attachement au Christ qui est très fort, donc c'est ça qui leur fait dire, oui, nous te suivrons jusqu'au bout, et en même temps, il y a un petit peu de naïveté quand même, parce qu'on verra bien le jeudi saint, et tous s'enfuir, enfin, et l'abandonner, donc. Mais ils comprennent bien que la coupe dont Jésus parle, c'est une coupe d'épreuve. Donc ils sont prêts à boire cette coupe. Ouais. Après, bon, peut-être qu'ils y mettent aussi de la gloire dans cette coupe. Donc ils disent, voilà, quel que soit ce qu'il y a dans la coupe, du moment que c'est la coupe de Jésus, on est prêt à boire. C'est cette idée de, on est prêt à te suivre partout où tu vas, avec Marie a raison. Depuis 3 ans, ils sont fidèles, ils ont suivi Jésus partout, même à Capharnaüm, quand Jésus a prononcé le discours du pain de vie, que beaucoup de disciples l'ont abandonné, Jésus s'est retourné vers eux, et vous, allez-vous aussi me quitter? Ils sont restés, donc c'est vrai qu'il y a eu des moments quand même clés où ils ont manifesté déjà leur fidélité, donc c'est-à-dire que c'est dans la continuité de cette fidélité Après, il y a un peu de naïveté aussi.
Le regard qu'a posé Jésus sur l'homme riche, il est mort, c'est le même regard qu'il a posé sur tous les apôtres au moment où il les a appelés et plein de fois après. Donc je pense que c'est vraiment le regard qui vous dit je vous aime et vous êtes avec moi sur la croix et je vous porte sur la croix. Et ma grâce vous suffit en fait.
Il est beaucoup plus beau que ce regard.
C'est plein de cette grâce en fait. Hein. C'est quand même. Enfin, il y a.
Oui, mais alors là, c'est vrai que on le verra mieux évidemment après, mais la coupe, c'est l'agonie. Donc c'est vraiment la coupe, voilà, si cette coupe peut passer loin de moi. Donc là, c'est pas précisé. Donc peut-être que effectivement, pour les apôtres, c'est la coupe du Christ, et oui, on veut bien y boire. Mais ils n'ont pas mesuré à quel point cette coupe était amère. Et quand Jésus parle du baptême, nous on sait qu'il parle de la passion. Parce que, de même qu'à son baptême dans le Jourdain, ben, il a pris la place des pécheurs, c'est tout le sens de son baptême, il n'y a aucune raison qu'il soit baptisé, parce qu'il est sans péché. Mais déjà au baptême, il vient dire qu'il prend la place des pécheurs, et là, le moment où par exemple il prend la place des pécheurs, où il prend tous les péchés sur lui, c'est la passion. Donc ce baptême, c'est une plongée dans un abîme de souffrance. Mais ça, je pense pas que Jacques et Jean
le
comprennent.
Oui, mais en fait, tout ce que ça veut dire, mais qui est cette volonté vraiment de le suivre.
Oui, mais c'est comme si, oui, c'est comme si, je sais pas, moi, je suis marié, sans dire à mon épouse, j'ai vidé tous les comptes en banque, j'ai tout donné aux pauvres, j'ai juste pris un aller simple pour une léproserie en Inde, parce que désormais, je vais aller vivre là-bas, au contact des lépreux, etc. Et je lui dis le matin, est-ce que tu es prêt à me suivre partout? Ben, évidemment, elle va me dire oui. Par amour. Et si après je lui dis, ben voilà, on n'a plus rien, on n'a plus. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, quand même. Et encore, là, c'est plutôt soft, la léproserie.
Mais.
Dieu
et les apôtres.
Oui, mais là, je pense pas qu'ils sachent vraiment à fond que le Christ est Dieu, quand même. Je sais même pas trop.
Oui,
c'est
ça. Qui le fait, ce désir d'organiser cette blague, c'est évident. Mais on ne peut pas non plus faire abstraction du fait qu'ils ont été touchés par
des choses. Ah, je ne le dis absolument pas, sinon ils ne seraient pas là. C'est le père Molinier qui, dans un livre magnifique qui s'appelle Le combat de Jacob, dit justement que l'orgueil des jeunes de 20 ans a une forme de naïveté tellement il est énorme. Et je pense que c'est ça. C'est-à-dire que. Il y a de l'amour, mais il y a aussi une forme de naïveté orgueilleuse qui est présente. Parce qu'effectivement, oui, il y a un attachement, mais ils nous disent même pas, mais quelle coupe, quel baptême, Seigneur, si tu nous donnes la force, oui, nous suivrons le feu. Non, je le fais, ça, pas de problème, quoi. Et ouais, c'est comme le jeune homme riche. Jésus dit, voilà, vends tout tes biens, donne-le aux pauvres, tu viens sur moi. Il lui dit même pas, mais comment me demander ça? Mais qui es-tu pour me demander ça? Non, il s'en va, quoi. Donc, hey, c'est pas tout l'un tout l'autre, quoi. C'est, on a le droit de demander, quoi. Là, Jacques et Jean, ils pourraient demander. On leur demande pas de répondre forcément « oui, nous le pouvons » ou de rien répondre du tout. Enfin, il faudrait dire quand même qu'est-ce qui va se passer, est-ce que tu seras là avec nous, ça. Non, non, on le peut, ouais, c'est un peu naïf.
Les apôtres n'ont pas encore reçu leur mission, en fait.
Ils ont pas reçu la grâce de la Pentecôte.
Ils ont juste
enfin, ils veulent rester
avec Jésus, mais.
Saint Jean, c'est pas quelqu'un de très simple. Hein. Non, Saint Jean, il a son entrée dans la maison du grand prêtre, hein, quand même. Donc, mais là, c'est Saint Jean, là, en l'occurrence. Mais voilà, ça reste le disciple bien-aimé, ça reste celui qui se repose sur la poitrine du Seigneur, ça reste celui qui, sans doute, a le mieux compris quand on lit son évangile qui est le Christ, voilà, la révélation de l'amour du Christ. Ça, c'est très clair, c'est très net. Mais, et c'est très consolant aussi pour nous, et puis ça nous encourage aussi justement à ne jamais nous arrêter en route, en même temps qu'il est rentré très profondément dans cette révélation du cœur du Christ, bah, il avait aussi à ce moment-là de sa vie déboulé de présomption et de naïveté qui continue de suivre. C'est, voilà, nous aussi. Donc,
quand tu as siégé à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas la mode qui a trouvé, il y a ceux pour qui cela est préparé. Qui sont ceux-là qui ont.
La Sainte Vierge est là, je pense.
Ah oui, ouais.
Mais.
On sera là-haut. Hein.
Mais du coup, elle était au ciel.
Oui.
Voilà, il faut aller au ciel et puis tu le sauras.
Mais
il leur dit à notre endroit de ceux qui siégeraient à ma droite et à ma gauche pour juger et tout le monde.
Ça, c'est ce qu'il dit justement dans la version de Saint Matthieu, dans la réponse de Saint-Pierre, enfin, à Saint-Pierre. Vous aussi, vous siégez sur 12 trônes comme juge des 12 tribus d'Israël. Mais il faut croire que cette réponse qu'il avait faite quelque temps avant ne les avait pas pleinement convaincus, et que parmi ces 12 trônes, eux voulaient les trônes les plus proches du Messie. C'est-à-dire que c'est bien d'être sur les trônes, mais si vous êtes tout au bout, c'est quand même moins bien que d'être juste à côté du roi. Mais c'est comme le secrétaire d'État à l'écologie solidaire, c'est quand même un peu moins bien que d'être ministre d'État aux Affaires étrangères. L'écologie est une chose importante. Dans le rang du ministère, c'est quand même. Généralement, vous avez un ministère un peu moins joli. Donc là, c'est pas. Voilà, les 12 trônes, c'est très bien, mais eux, ils aimeraient bien au plus près. Et puis. Voilà, avoir des trônes, quand viendra la régénération, c'est bien, mais avoir la place à gauche, à droite, dès maintenant, c'est encore mieux, quoi. C'est-à-dire que siéger au jugement dernier, c'est pas mal, mais si on peut siéger à Jérusalem lorsque le Messie est triomphant, c'est mieux. Mais c'est vrai que là, le Christ, effectivement, ben, dit, voilà, dans la nature humaine, en tout cas, en tant qu'homme, ce n'est pas à moi d'attribuer les postes. Puisque bon, là, vous raisonnez de façon très humaine, ben moi je vous dis, voilà, en tant qu'homme, c'est pas à moi d'attribuer les meilleures places dans le ciel. Ça revient à Dieu. Alors, bon, le Christ est Dieu, mais là en l'occurrence, c'est plus en mode humain qu'il parle. Donc, bon, on va aller prier parce que sinon on va passer toute la nuit. Donc. Donc on est quand même pas loin parce qu'on arrive à Jéricho.